Bonjour à tous. Je remercie évidemment les Rencontres philosophiques de Monaco de me confier la présentation de cette rencontre. C'est une confiance que vous me faites, d'autant que c'est un des sujets qui nous tient, Florence Askenazy et moi, énormément à cœur et qui constitue l'essentiel de nos journées, ou en tout cas un grand moment psychique. Alors, cet après-midi, nous allons interroger ensemble une zone de silence très particulière, qui est celle des femmes, et qui est au cœur de la clinique et de la politique, et au cœur de l'intime et du social, dans cette bordure. Nous allons interroger deux champs, et de manière assez radicale, je dirais, le mépris d'une part de l'humanité pour l'autre part de l'humanité. Cette question, on va la traverser par celle de la voix des femmes. Qu'est-ce que c'est que cette voix des femmes qui est tant redoutée et qui fait qu'au moment où nous nous parlons en Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit de chanter ? Cette voix semble donc si dangereuse. C'est ce premier point. Le deuxième point, c'est la question que je me suis posée et à laquelle Florence va certainement nous donner des éléments de réponse très importants. Je me suis demandé si le fait de redouter cette voix des femmes n'avait pas créé chez les femmes quelque chose comme un interdit internalisé dans leur corps, c'est-à-dire comme un interdit de dire, comme un interdit de sortir du silence pour les femmes, comme une silenciation induite dans leur corps. Or, nous le savons, le silence induit des états critiques, des états de déréliction, jusqu'au dernier silence qui est celui de la mort, qu'on retrouve dans les féminicides, et aussi cet état de silence, je rappelle qu'en latin, les morts, on les appelait les silentes. Donc il y a forcément une plaque tournante, un nœud très fort entre le silence, l'interdiction d'entendre la voix d'une femme, la difficulté pour une femme, pas seulement d'hausser la voix, mais juste de dire qu'elle est victime. Pourquoi c'est si difficile ? Quel est le coût de cette vérité ? C'est le thème qui nous réunit aujourd'hui. Quel est le coût de cette vérité pour une femme de dire ce dont elle est la victime, ce dont elle est l'objet ? Alors avant de laisser la parole à Florence et de vous la présenter, je voudrais mettre cette heure de discussion sous l'égide d'une citation de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « La force des femmes » et que je vous invite à lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Voici cette phrase. « Les violences sexuelles sont une épidémie mondiale que nous commençons tout juste à traiter. Pour penser cette épidémie mondiale de violences contre le corps des femmes parce qu'elles sont des femmes, je pense que c'est très important de réfléchir à la représentation, à la haine du corps de la femme, qui est aussi le corps de la mère. Qu'est-ce que c'est que cet archaïque auquel on va être obligé de se confronter grâce à la pensée d'une psychanalyste ? Qu'est-ce que c'est que cet archaïque du corps féminin et du corps maternel qui est à la fois haï et qui finalement aurait peut-être intériorisé cette haine dont il est l'objet, dont elles sont l'objet, en taisant leur voix ? Je vous présente maintenant, pour ceux qui ne la connaissent pas, Florence Askenazy, qui est professeure en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, chef de service à l'hôpital Lanval de Nice et, nous ne manquerons pas de l'entendre en l'écoutant, également psychanalyste. Je te laisse la parole.
Merci Laurence, merci Charlotte Kaziragi, merci aux Rencontres philosophiques auquel je me rends toujours avec un immense plaisir pour débattre ensemble, réfléchir et pour... Alors, le terme ne me revient plus. Pour la disputation. Alors, est-ce que nous allons pouvoir utiliser la disputation, Laurence et moi-même, aujourd'hui, sur un thème aussi difficile et aussi sérieux que celui des femmes, de la vérité et des violences que l'on leur fait subir depuis des millénaires dans la société. Et je pense que c'est un sujet effectivement central aujourd'hui, comme cela a été souligné. Je vais commencer par ce matin, pour ceux qui étaient aussi à la matinale, eh bien par l'anecdotique, pour aller vers quelque chose de plus général qui traverse notre société aujourd'hui. Pour l'anecdotique, je souhaiterais vous rapporter mes débuts d'interne en médecine, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Est-ce que c'est ces débuts-là qui ont permis de m'autoriser vers cette carrière ? Je n'en sais rien. Mais je tiens quand même à raconter cette anecdote. Une des premières patientes que j'ai pu rencontrer est une jeune fille qui devait avoir 15 ou 16 ans, qui avait été abusée par un des membres de sa famille. Et comme c'était à cette époque-là, la devise, les grands patrons voyaient les patients en compagnie de leurs internes. Elle reçoit la jeune fille, c'est une dame, et elle lui dit « Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis, des accusations que tu profères à l'égard de cet homme, et ça va conduire à gâcher sa vie ?» C'est une histoire vraie, et c'est une histoire qui ne remonte pas à tant d'années que cela. Il y a à peine une petite trentaine d'années, disons, que j'étais interne à la faculté de médecine. Alors évidemment, ça ne pouvait pas ne pas me faire réfléchir. Et à partir de là, je crois que j'ai bâti une grande partie de ma pratique sur cette idée que ce n'était pas concevable et que je devais trouver une autre voie éthique que celle qui était portée par mes maîtres et par la psychiatrie de cette époque-là. Alors, je vais être un peu subversive. La France est quand même un pays qui a mis des années à accepter l'idée qu'une des problématiques principales chez la jeune fille qui était en souffrance ou qui était hospitalisée pour une expression psychiatrique de ses difficultés était lié à des traumatismes et souvent des traumatismes de la vie intime. Par contre, l'Amérique du Nord, et malgré toutes les dérives dont on a parlé, qu'elle subit aujourd'hui, ont été parmi les premiers à soulever ces problématiques. Et on sait combien en France elles ont été rejetées par les pédopsychiatres, mais par les psychanalystes aussi. Hein. C'est un débat que nous pourrons avoir. Alors, je voudrais vous dire que... aujourd'hui, dans le contexte actuel, je voudrais passer de l'anecdotique aux dernières études qui sont sorties. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de l'étude qui a été menée par la fondation Bill Gates, par l'équipe de Seattle dans l'État de Washington, aux États-Unis, et qui a été financée donc par Bill Gates et qui utilise l'ensemble des données mondiales sur les abus faits aux enfants, et notamment faits aux jeunes femmes, mais aussi aux jeunes hommes, bien sûr. Et ces données sont extrêmement importantes. On parle de la vérité. Je ne sais pas si... je ne suis pas suffisamment experte pour pouvoir analyser de façon très précise les données statistiques telles qu'elles ont été publiées, mais elles montrent quand même des choses qui nous font encore réfléchir et sur lesquelles nous devons nous pencher, je crois, aujourd'hui, dans notre pratique et dans notre conception du soin envers les jeunes femmes et les femmes qui ont été abusées. Alors, elle donne une prévalence globale, je suis les chiffres, je regarde, hein, de 18,9% mondialement pour les femmes avant 18 ans et 14,8% chez les hommes. Alors, un des résultats que j'ai trouvé très intéressant et qui n'était pas du tout attendu, c'est que ces chiffres sont globalisés. On pourra discuter, on pourra avoir de la disputation sur ce sujet-là. Et ce sont des chiffres que l'on retrouve aussi bien dans ce qu'on appelle aujourd'hui les low countries, c'est-à-dire les pays en difficulté économique, comme dans les pays qui ont des ressources pleines et entières. Par contre, il semble qu'il y ait des variations très importantes selon les cultures, avec des modifications, c'est assez grossier, hein, en Afrique, en Asie, en Europe et Amérique du Nord qui semblent plutôt configurer le même type de problématique. Donc, qu'est-ce qu'elle montre, cette étude ? Elle montre qu'aujourd'hui, alors que depuis une vingtaine d'années maintenant, cette problématique se pose, bah, rien n'a vraiment changé, que l'abus reste endémique, très important, et qu'il n'y a pas vraiment de politique de santé qui ait été mise en place pour pouvoir endiguer le phénomène de l'abus pour les enfants, pour les jeunes filles et puis pour les femmes. Alors, je reviens à la France et je souhaiterais parler de cette problématique du tabou qu'il y a dans notre société vis-à-vis de l'abus pour les jeunes femmes et qui a conduit, il y a quelques années, je crois 2020, c'est récent, 2023 la CIVIS, n'est-ce pas ? 2023, c'est le changement. Alors 2021, bouleversement et création, vous avez dû en entendre parler, de la CIVIS. Alors la CIVIS, c'est une commission qui a été dirigée par un juriste qui s'appelle le juge Durand, qui était volontairement du côté des victimes, volontairement, éthiquement, par choix et choix de la vérité, on peut dire les choses peut-être comme ça pour cet homme. La CIVIS a entendu un nombre considérable de témoignages de jeunes femmes et de femmes qui avaient été incestuées. Témoignages oraux, témoignages écrits, témoignages par téléphone, s'est déplacé dans toute la France. Enfin, bref, ils ont abattu un travail considérable. Un nombre de recommandations majeures et massives dont aujourd'hui très peu ont été retenus, c'est le constat. Après, on pourra discuter s'il fallait les retenir, ne pas les retenir. Et aujourd'hui, la CIVIS n'est plus dirigée par le juge Durand, qui a été taxé de radicalité envers les victimes. C'est un petit peu comme cela que les choses ont été dites assez clairement autour de ça, avec aussi quand même quelque chose sur lequel on peut réfléchir, c'est-à-dire sur la méthodologie de recherche qui a été employée. Alors c'est pour ça que j'ai mis en parallèle les deux types d'études, celle de la CIVIS et celle qui a été faite par l'Amérique du Nord, aujourd'hui, récemment, sachant que Bill Gates est un opposant direct de M. Trump et Musk, donc ce travail est extrêmement politique. Le problème de la CIVIS, c'est qu'ils ont utilisé principalement des méthodologies des sciences humaines et sociales, basé sur des études qualitatives et peu d'études quantitatives, ce qui effectivement a permis de reprocher énormément les résultats qui ont été donnés. On pourra discuter de ces méthodologies. Si vous voulez, la méthodologie quantitative utilisée par ces données qui sont mondialisées pose de très gros soucis aussi parce qu'elle déshumanise en quelque sorte la position de victime. Alors qu'au contraire, la CIVIS avait fait un travail très important de réhumanisation et d'écoute de la souffrance et de la solitude. Alors autant on a des résultats très froids, très quantitatifs, et de l'autre, on a des résultats qui permettent d'appréhender la nature humaine de la douleur pour une victime féminine ou masculine aussi. On parle des femmes, mais il ne faut pas oublier quand même que les hommes subissent aussi des problématiques très violentes. Alors sur la CIVIS, bon, tu m'avais demandé d'en parler, je vais en dire un petit mot. Elle a conduit surtout, principalement en France, à l'élaboration de ce qu'on a appelé les UAPED. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Ce sont des unités pédiatriques qui sont postées au niveau des urgences pédiatriques et qui ont pour fonction de repérer très rapidement les abus et de les signaler. Alors c'est très bien, il y en a 25, peut-être un peu plus en France aujourd'hui. C'est très bien, mais quid de ce qui se passe par la suite ? C'est-à-dire, je ne sais pas ce que Chloé Salé vous a dit hier, mais après, la justice est bien sûr en très grande difficulté. Il n'y a pas suffisamment de politique qui a été mise en place derrière pour accueillir les jeunes femmes abusées, pour pouvoir surtout condamner les abuseurs, pour que la justice puisse faire son travail et pour qu'il y ait un accompagnement sur un temps suffisamment long de la difficulté d'être une victime et d'un abus sexuel. Alors, j'en viens au fait que je repars sur l'étude Bill Gates, qui apporte quand même quelque chose, un éclairage très important sur une idée qui est évidente et implicite, mais qui est loin d'être reconnue par tous, et notamment par les politiques, c'est que la problématique de l'abus, elle commence dans l'enfance et dans la toute petite enfance. Même si elle a été oubliée, même si elle a disparu, ce sont l'enfance sera petit et plus on devra le protéger de tout ce qui se passe autour de l'abus. Et je ne dis pas le séparer de ses parents, hein, ce n'est pas la problématique. C'est vraiment comment on va accompagner tout ce que l'abus va charrier avec lui de douleur et surtout de désorganisation. Alors, je crois que j'étais venue il y a 2 ans ici parler du trouble de stress post-traumatique. Je dirais, on s'en fiche de la terminologie. Et je vais vous parler d'une nouvelle terminologie qui arrive, mais qui n'est pas encore reconnue par la médecine psychiatrique, qui s'appelle le trouble de la personnalité traumatique. Alors, en quoi ça serait intéressant d'étudier le trouble de la personnalité traumatique ? C'est-à-dire, on parle beaucoup, chez nous, dans notre jargon, du trouble de la personnalité limite. Moi, j'ai un service d'hospitalisation pour jeunes gens, principalement nous accueillons des jeunes filles. À peu près plus des 3/4 des jeunes filles qui sont hospitalisées ont subi des abus, et le diagnostic qui est porté par les médecins, c'est un diagnostic qui s'appelle trouble de la personnalité limite, c'est-à-dire une espèce de fourre-tout où on met une série de symptômes, mais ne nous apporte pas grand-chose de plus. Alors l'intérêt, je pense, d'utiliser le trouble de la personnalité traumatique, c'est qu'il va mettre le focus sur le problème du traumatisme comme étant originaire de la difficulté, et non quelque chose qui est de l'intériorité du sujet et qui finalement va rencontrer un implicite que nous portons tous dans la société qui est, au fond, elle l'a bien cherché, ou au fond, c'était en elle. C'est ce qui lui arrive, c'est sa destinée, etc. Si on déporte notre façon de comprendre les choses vers un événement qui vient de l'extérieur et qui pousse à l'intérieur vers une effraction, qui pousse vers des symptômes, on voit et on comprend les choses différemment, en tous les cas pour ce qui concerne la psychiatrie. Et je crois qu'on en parlait ce matin, la crise qu'elle traverse, ce pourrait être une aide, hein, comme une autre, hein, comme d'autres qu'il faudrait trouver, mais de comprendre les choses à travers des traumatismes me paraît très important. Je vais vous passer sur les symptômes, et donc j'aimerais reprendre le concept si cher à notre amie Laurence, qui est près de moi, qui est la problématique du silence. On a gardé trop longtemps dans le silence les abus, dans les familles, dans les institutions, à l'école, dans la politique, partout. Le silence sur les abus qui ont été faits aux femmes. Alors, un chiffre parle de lui-même. Seulement 3% des plaintes pour viol font l'objet d'une condamnation aujourd'hui des agresseurs. Pourquoi ? Multiples raisons. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le parcours judiciaire reste long et douloureux pour ces jeunes femmes, et que la parole est très difficile à se libérer. Et moi, j'appelle ça le bâillon, pour reprendre un terme juridique, le bâillon familial, le bâillon sociétal sur la bouche des femmes est toujours là. Pour les enfants, c'est le conflit de loyauté, l'injonction familiale au silence, tais-toi, tais-toi, elle est folle. N'oubliez pas qu'une femme qui dit qu'elle a été abusée reste une femme qui est folle, folle pour la société. Alors, on parlera peut-être après des travaux de Dorothée Ducy. Tu veux que j'en dise un mot ? Alors, les travaux de la CIVI se sont basés notamment sur les travaux d'une sociologue-anthropologue qui s'appelle Dorothée Ducy, que vous pouvez lire, hein, c'est vraiment tout à fait intéressant, et qui a montré combien le tabou de l'inceste était partagé au sein des familles, et était une organisation systématique du fonctionnement familial dans une logique d'appropriation des corps. Alors, ce qu'elle a analysé plus particulièrement, c'est le silence collectif autour de la problématique de l'inceste. Et à ce moment-là, elle va parler de quelque chose. Là, c'est vraiment un changement de perspective majeur par rapport à tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a connu en anthropologie depuis Lévi-Strauss. Je pense que là, il y a un changement de perspective très important. Mais bon, je précise que je suis psychanalyste, mais je ne suis pas philosophe. Donc, je vais laisser le soin à mes collègues de débattre sur la problématique du si versus Lévi-Strauss. Mais pour nous, c'est très intéressant dans notre pratique. C'est-à-dire que nous pouvons entendre que ce silence et l'effet du traumatisme, que ce n'est pas un tabou originel qui gît au sein des familles, mais qu'il s'agit de quelque chose, d'une matière que nous allons pouvoir travailler dans notre pratique, dans notre accompagnement psychothérapeutique, voire pendant les cures analytiques sur le divan. Donc ça modifie les choses en profondeur. Alors je vais vous parler aussi, qu'est-ce qui se passe dans les familles où il y a eu des abus ? Eh bien, il y a un mécanisme psychique qui se met en place, aussi bien pour les victimes que pour les abuseurs et que pour les complices ou pour ceux qui accompagnent la victime, ce qu'on appelle le déni. Qu'est-ce que c'est que le déni ? Le déni, c'est un mécanisme psychique. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour mettre en place quelque chose qui ne permet pas de voir la vérité, qui ne l'autorise pas à venir jusqu'à la conscience. Mais c'est une défense psychique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça protège quelque part, aussi bien l'individu que le groupe d'individus, et qu'elle est donc nécessaire à notre survie. Alors ça fait réfléchir. Comment est-ce que nous allons travailler cette question-là avec les patients, quelle que soit la façon dont nous nous positionnons, que ce soit en tant que psychiatre, thérapeute ou psychanalyste, la levée du déni est une question très douloureuse et très difficile et qui prendra beaucoup de temps. Ce déni, dans les problèmes d'inceste et dans les problèmes d'abus, il touche, comme nous l'avons vu en introduction, aussi bien les victimes, les abuseurs, les parents, mais aussi, n'oublions pas, les professionnels. Et ça, je crois que c'est une question qui est majeure. Beaucoup de professionnels arrivent dans quelque chose que j'appellerais la communauté de déni. Alors, la communauté de déni, c'est un terme psychanalytique qui a été développé par un psychanalyste qui s'appelait Michel Fain, psychanalyste psychosomaticien, et qui avait découvert pendant l'analyse cette idée d'un concept qu'il pouvait y avoir un déni commun entre l'analyste et le patient. Et bien entendu, ce déni peut toucher à différentes choses, mais tout particulièrement, bien sûr, à la sexualité et au traumatisme sexuel qui ne peut pas émerger pendant la cure. On peut l'élargir à quelque chose qui va aller autour du familial, mais aussi autour du socius, et tout au long de ces rencontres, nous parlons tout le temps de ce va-et-vient entre l'intime et le collectif. Et il est possible, et moi je le vois tous les jours dans ma pratique, que nous ayons parfois, tous ensemble, les psychiatres, les infirmiers, avec la patiente, avec les parents de la patiente, une communauté de déni sur ce qu'elles ont pu subir. Donc c'est très important d'avoir en tête ces concepts pour pouvoir avancer avec nos patients. Enfin, je vous parlerai aussi de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans ces problématiques, qui est la négation et la peur du féminin. Pour accepter la différence des sexes, ça ne va pas de soi. On ne naît pas avec la possibilité de savoir que nous sommes un garçon ou une fille et qu'il y a une différence entre les deux. C'est un vrai travail psychique qui va prendre un temps très long et qui peut parfois prendre toute la vie d'ailleurs. Et je ne sais pas si on arrive au bout. Bien sûr, nous portons tous en nous, vous le savez, du féminin et du masculin. J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Seulement, aujourd'hui, nous sommes tellement d'accord avec cela que c'est pratiquement banalisé. On pourrait dire, on entend que ce qui est du masculin serait de l'ordre de la brutalité, de la vulgarité, excusez-moi messieurs, et que le féminin serait de l'ordre de la tendresse, de la sensibilité. Mais en fait, nous savons bien que tout cela, ce sont des foutaises et que c'est bien plus complexe que cela, ce qui est de l'ordre du masculin et ce qui est de l'ordre du féminin. Donc revenons à notre sujet et à la question du féminin attaqué et abusé. Et je crois qu'il faut se poser cette question d'abord, c'est-à-dire que pour pouvoir être un adulte libre de ces pulsions d'agression envers ce que représente le féminin, il faut déjà avoir pu intérioriser à l'intérieur de soi-même cette différence et l'accepter. Accepter que nous sommes des filles ou accepter que nous sommes des garçons, c'est-à-dire la peur et l'horreur, l'effroi que suscite la castration. Donc je reviens à Freud, hein, c'est vraiment le fondement de l'angoisse est l'horreur de la castration symbolisée chez la femme par le manque du pénis. C'est par là que nous accéderons à la capacité de pouvoir aller d'un mouvement plus féminin vers un mouvement plus masculin, dans une certaine civilité, civilisation, et civiliser nos pulsions, notre corps, nos affects, nos sentiments. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors, que se passe-t-il vis-à-vis des femmes abusées ? Est-ce que cela pourrait être une forme de négation du féminin, une forme de négation de la castration et de l'horreur qu'elle suscite pour les abuseurs ? Un refus psychique profond d'atteindre sa bisexualité et de reconnaître la différence des sexes. Alors j'irai un petit peu plus loin. On pourrait dire aujourd'hui que finalement, cette négation du féminin, je ne parle pas de refouler, hein, je parle de négation, c'est-à-dire quelque chose qui doit être effacé. La négation sous-tend derrière la haine pour pouvoir faire disparaître ce qui est insupportable. Il me semble que c'est quelque chose qui envahit de plus en plus notre collectif aujourd'hui pour les femmes. Tu en as parlé dans l'introduction. Mais ça va, bien sûr, ce qui est évident, sur les femmes que l'on bâillonne, qu'on ne laisse pas chanter, qu'on enferme dans les cuisines. Ça va aussi pour les femmes ici, contemporaines de notre société, pour lesquelles on ne reconnaît toujours pas le fait qu'elles puissent avoir un cycle menstruel et des règles, que acheter des tampons ou acheter des serviettes hygiéniques, ce n'est toujours pas remboursé par la sécurité sociale, qu'il y a des travaux qui montrent combien cela crée des différences entre les hommes et les femmes, parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas l'argent pour s'acheter des protections féminines, et que nous n'avons toujours pas réglé ces tabous-là. Le rubis a horreur du rouge, disait une grande psychanalyste sur la très féministe sur la féminité. Le rubis a horreur du rouge. Et lorsque le rouge disparaît et que la femme tombe en ménopause, qui va parler de cela et des besoins qu'elle peut avoir ? Un tabou qui reste très présent. Enfin, je terminerai, nous aurons sur la question de la haine du féminin, sur la problématique, nous en parlions tout à l'heure, de la féminité, la matrice de la féminité, la grossesse, la maternité et le bébé. Le bébé, la mort du bébé est certainement là où gît la mélancolie et quelque part l'abus, l'attaque, c'est aussi l'attaque de la mère insupportable, du bébé insoutenable, qu'ont été ces hommes qui abusent ou ces femmes qui abusent, parce qu'il y a aussi des femmes qui abusent. Ça serait bien trop facile de voir les choses que de sur cette perspective-là. Il me semble donc bien que le classique, elle l'a bien cherché, que j'ai suffisamment entendu tout au long de ma carrière par de nombreux collègues, se rattache à cette problématique fondamentale humaine qu'il faut entendre d'abord pour comprendre, pour aider à ce que nous allions vers plus de civilisation pour nos patients. J'ai un peu de temps encore. Oui. Alors, je voudrais parler aussi de choses qui sont contingentes, des abus qui sont faits aux femmes, deux affects très puissants qui sont la honte et la culpabilité. Pour moi, la honte et la culpabilité, c'est deux jambes qui vont ensemble. Elles sont entremaillées. Et elles vont gréver de façon très importante le devenir des victimes. Alors c'est assez paradoxal de penser qu'une victime va ressentir de la culpabilité et de la honte alors que ça devrait être l'agresseur. Mais je peux vous certifier que la honte et la culpabilité est du côté des victimes, malheureusement. Alors la libération de la parole est extrêmement entravée par la honte qui renvoie toujours à une effraction dans l'identité et dans le narcissisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, on se sent honteux parce qu'on a subi quelque chose qu'on n'aurait pas dû subir. Et il y a toujours des phrases qui ne sont pas inconscientes dans les têtes des victimes, qui est « Pourquoi est-ce que j'ai subi ça ? Est-ce que je me suis mise dans cette situation pour subir quelque chose par l'agresseur. Est-ce que c'est moi qui ai suscité cette agression? Est-ce que c'est ma faute? Ça revient tout le temps pour toutes les victimes. J'ai rarement rencontré des victimes qui n'avaient pas cette problématique de la honte. Et c'est la honte qui clôture la parole, qui l'enclôt dans un interdit très difficile à dépasser. Ça touche l'essence même de l'être. Et les patientes, au fond, ne le disent pas. Mais je crois que c'est Judith tout à l'heure à parler. Dans l'analyse, on parle de ce qui est sale. On parle des entrailles, on parle du corps, on parle de ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous, qui se représente plus ou moins dans le psychisme. Mais pour une femme qui a été abusée et qui pourrait être sur un divan ou qui en face à face ou qui rencontre pour la première fois un psychiatre ou un jeune débutant, ça va être extrêmement difficile pour elle de pouvoir parler de ce sale parce que non seulement il est sale, mais en plus il est profondément honteux. Donc le travail est souvent difficile, long, va prendre beaucoup plus de temps qu'avec des patients qui n'ont pas vécu ce type de difficulté dans leur vie. Alors, la culpabilité, elle va avec la honte. Elle est paradoxale, mais elle est toujours présente. La culpabilité d'être une victime, la culpabilité d'avoir ressenti du plaisir pendant l'abus, la culpabilité d'avoir été la maîtresse de son père ou de son frère, la culpabilité d'avoir été violée par le cousin dans la chambre à coucher alors que les parents étaient à côté et de n'avoir rien dit, elle est tout le temps présente et elle va sillonner toute la vie de ses patientes. Très longtemps, elle va la sillonner dans leur travail, elle va la sillonner dans leur vie personnelle, elle va sillonner dans leur vie amoureuse en permanence. Eh bien, ce qui est important aussi, c'est qu'elle s'inscrit quelque part aussi dans le contexte culturel et dans le contexte social. Et c'est leur propre culpabilité, peut-être quelque part, qui interdit nous-mêmes, notre société, à positionner les choses clairement pour pouvoir mettre en place des politiques de santé qui pourraient accompagner au mieux les victimes, et notamment les victimes d'abus. Culpabilité, honte conduisent à un sentiment profond de solitude. La solitude des victimes, c'est vraiment quelque chose, c'est très important. Vous savez, quand on rencontre une victime et qu'on lui dit « Vous vous sentez seule, vous souffrez de solitude », c'est un pas immense. C'est une première reconnaissance de leur intériorité attaquée. Et la victime, même si elle est dans des associations de victimes, même si elle rencontre d'autres victimes, se sent très souvent seule avec son propre traumatisme, merci, vous voyez comme c'est difficile. Et sortir de la solitude, c'est un travail très très long et qui est très important. Et c'est là que nous avons, je crois, une place qui est non négligeable parce que nous pouvons, nous, en tant que psychanalystes, thérapeutes, nous pouvons être les premiers à autoriser le patient à sortir de sa solitude alors qu'il était seul depuis tant d'années, pour certains depuis tant d'années, avec leur traumatisme. La solitude, c'est une solitude qu'ils ressentent vis-à-vis des autres, de leurs proches, vis-à-vis de la société, dans leur travail, mais c'est aussi une solitude, et ça je tiens à le souligner, on le retrouve à travers les analyses et les thérapies de patients qui ont été abusés, c'est une solitude vis-à-vis de soi-même. Parce que le traumatisme par effraction sexuelle ou d'autres types de traumatismes provoque quelque chose qui scinde quelque part, qui encrypte, ça a été dit hier par Vanessa Springora, elle a beaucoup parlé de la crypte, et moi ça m'a fait penser à Abraham et Torok, donc si vous pouvez lire ces travaux psychanalytiques, sont vraiment passionnants, où le traumatisme est encrypté quelque part, où gît aussi la mélancolie, où gît la haine. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas aller chercher. Ce n'est pas un refoulé qui revient à la conscience d'un souvenir infantile. C'est bien plus puissant que ça. Et ça œuvre en permanence à l'insu du sujet, dans son psychisme. Ça a été dit hier, ça va conduire à l'échec. Ça va conduire à des répétitions inconsciente, très douloureuse. Il va falloir beaucoup de temps pour aller chercher cette crypte traumatique. Donc solitude vis-à-vis de soi-même, solitude vis-à-vis des autres, et solitude aussi de quelque chose que j'ai beaucoup rencontré, c'est de la difficulté à accepter d'être victime, le refus d'être victime. Déjà, c'est un pas, lorsqu'on commence à accepter l'idée qu'on a pu être une victime. Alors, c'est un terme sur lequel on a énormément disserté, est-ce qu'il faut parler de victime ou trouver un autre mot ? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée vraiment là-dessus, je ne sais pas quelle vérité trouver. Mais c'est très important le moment où on bascule en reconnaissant que soi-même accepté, qu'on a subi quelque chose de traumatique qui a modifié fondamentalement son parcours de vie. Donc le silence, la solitude et le déni, la honte et la culpabilité qui en sont les conséquences, au fond, clôturent la parole des victimes et peuvent la clôturer toute leur vie malheureusement. Alors pour terminer, je reprendrai la phrase de Marguerite Duras. Je remercie Charlotte qui m'a replongée dans mes lectures d'adolescente. Et ce n'est pas l'adolescence. Enfin, lorsqu'on a lu Duras à l'adolescence, il faut y revenir à l'âge adulte pour y comprendre quelque chose du traumatique. Répétition inlassable de la honte et de la culpabilité qui n'autorise plus notre capacité à aimer, dans cette phrase lancinante qui revient tout le temps dans ce monument du cinéma et de l'art qui est Hiroshima, mon amour, lorsque l'homme dit à la femme qu'il croit aimer ou la femme qui n'arrive pas à l'aimer, tu n'as rien vu à Hiroshima, tu n'as rien vu à Hiroshima, tu n'as rien vu à Hiroshima. Donc je pose cette question, qui sommes-nous alors ? Psychiatre, psychanalyste, devons-nous conduire à rester aveugle ou à voir ce qui cherche à rester dans l'invisible, dans l'irreprésentable et dans l'impensable ?
Merci, merci Florence pour ce très beau parcours qu'on vient de faire avec toi autour de cette difficulté de dire et de faire entendre la vérité. Je voudrais juste dire un point avant de te poser des questions, c'est que dans cet énoncé sur la difficulté de dire et de faire entendre la vérité, tu nous as montré à quel point c'était difficile pour ces femmes victimes qui vont se confondre finalement avec l'événement qui leur est arrivé, et c'est ce moment d'objectalisation qu'elles vont revivre, qui va parfois rendre très difficile la sortie du silence. Mais il y a cette deuxième partie de la phrase, de faire entendre la vérité. Et je voudrais juste dire un mot sur le fonctionnement de la Civise pour un peu compléter ce que tu as dit et montrer finalement que la sortie du silence va être conditionnée, en particulier pour les femmes, par un paradigme de l'écoute. C'est-à-dire quel va être le dispositif à la fois thérapeutique, sociétal, intime, qui va permettre à une femme, dans deux situations identiques, de sortir ou pas du silence. Il est très clair que la Civise, elle, a démarré avec un paradigme, et Judith le rappelait tout à l'heure, qui est le « je te crois ». C'est-à-dire que d'emblée, on suppose que tu ne vas pas mentir sur le fait que tu as été violée, tu as été victime d'inceste. C'est-à-dire que l'idée du mensonge, qui est donc le contraire de la vérité, va être exclue. C'est-à-dire que d'emblée, je vais faire confiance à l'énonciation de ta vérité. C'est-à-dire que pour sortir du silence, on suppose qu'il va y avoir un substrat de vrai dans l'énonciation à venir. Et ça, je crois que c'est très important de comprendre qu'il ne s'agit pas là seulement de philosophie, mais il s'agit de considérer le sujet en face de moi, qui est au-delà même de son statut de victime, parce qu'il est victime peut-être pour toujours ou victime transitoirement, mais en tout cas, il n'en demeure pas moins sujet et je lui accorde un sujet de vérité quand je vais l'écouter. Et c'est certainement dans ce paradigme que les sorties du silence pour ces femmes qui sont d'emblée invitées au silence, tu l'as parfaitement expliqué dans ton parcours, et cette invitation presque d'emblée à se taire quand on est une femme, en tout cas pour la majorité de la population féminine de la planète, S'il y a un paradigme différent dans l'écoute, alors on peut supposer que le silence va se transformer en énonciation. Et je voulais juste rappeler, avant de te poser mes premières questions, que lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé la Civise, c'est après la lecture du texte de Camille Kouchner, La Familia Grande, où il était question d'un inceste. C'est-à-dire que c'est un récit, c'est la fabrique d'un récit littéraire qui a connu un grand succès et qui touchait un milieu bourgeois, un milieu privilégié, loin des représentations habituelles de l'inceste, qui a permis une prise de conscience. Donc on voit qu'un récit littéraire peut conduire à un acte politique qui ensuite va permettre un paradigme d'écoute. Et je pense que là, on a un exemple, il n'y en a malheureusement pas encore assez, de passer justement du silence, de la silenciation, à faire entendre la vérité. Et on voit très bien qu'en fait, c'est très compliqué, il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup d'aide de la société civile pour que ça existe. Parce que, comme tu l'as expliqué, en soi, d'emblée, spontanément, ça ne peut pas exister. Alors justement, toi, en tant que chef de service, femme de terrain, clinicienne aguerrie, quelles sont tes idées dans la suite, justement, des travaux de la Civise ou comme clinicienne dans ta pratique? Quelles sont les idées que tu vas pouvoir avoir récupérées ou que tu peux partager avec certaines patientes dans la prévention ou par rapport justement à cette sortie du silence?
La première chose, je l'ai dit, je crois qu'on ne peut pas être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vraiment une image très grossière, mais qu'il faut bien entendre. Il ne s'agit pas de penser qu'on va pouvoir lever comme cela très rapidement tous les silences. J'aurais une très grande prudence par rapport à ça.
Je crois que c'est impossible.
C'est impossible. Alors, la qualité de l'écoute et de l'accueil, c'est fondamental. Mais pour avoir une bonne qualité d'écoute et une bonne qualité d'accueil, il faut être formé. Il faut être formé très précisément à cela. Ça ne peut pas être donné à tout le monde. Il y a trop de risques à lever les effets du déni et à lever les effets du déni familial et du déni collectif. Il faut y aller tout doucement, tout doucement, pour pouvoir accompagner. Et donc, ce qui est très important, est-ce que les politiques, je le reprenais ce matin, la question, c'est très bien qu'il y ait des récits littéraires, que les choses, qu'il y ait des études scientifiques aussi, qui permettent de regarder les choses telles qu'elles sont, c'est très très important. Mais il doit y avoir une politique sur un long terme qui permet d'accompagner les victimes, de les aider à pouvoir prendre la parole petit à petit, pour aller vers une capacité d'une autre vie. C'est bien plus important que que des mesures. C'est pour ça que je te disais tout cela, ce sont des mesures.
Et qu'est-ce que tu, toi...
Eh bien, il faut engager de l'humain. Si on n'engage pas de l'humain, la lumière s'éteint.
Mais concrètement, engager quel genre de tissage?
Engager de l'humain, un tissage dans les écoles, un tissage auprès de la santé mentale des écoles, un tissage dans la médecine, un tissage dans la prévention, et qui ne passe pas obligatoirement par les psychiatres ou par le sanitaire, qui passe par un collectif d'individus qui, enfin, intègre ces notions qu'il faut que quelque chose change. Donc ça va bien au-delà de la création de feuillets les uns après les autres sur la psychiatrie. Il faut repenser les choses profondément et qu'il y ait de l'humain qui vienne entendre les choses, qui vienne les accueillir et les conduire vers la possibilité de retrouver leur capacité à aimer. Le traumatisme par abus sexuel entrave fondamentalement la capacité à aimer par la suite et entrave la vie entière. Je n'ai pas de recette, je ne suis pas politique. Mon boulot, ce n'est pas de faire des politiques de santé. Tout ce que je peux leur indiquer, c'est que ce qu'ils font, ça ne va pas. Bon, alors ça, avec ça, on ne va pas aller loin. Mais c'est rajouter des structures les unes après les autres. C'est beaucoup d'argent qui est peut-être dépensé à tort et à travers. Par contre, réimpliquer les choses, réimpliquer les enseignants, expliquer, modifier en profondeur la relation qu'il y a entre les êtres humains, introduire de la disputation et de l'échange entre les filles et les garçons à l'école et non pas de la violence, tout ça, ce sont des enjeux qui sont majeurs pour notre future société.
Merci pour ta réponse très claire. Et je vais poser une dernière question avant de passer la parole à la salle, si ça va comme dans le taille. C'est une question qui s'adresse à l'analyste que tu es et à la femme que tu es. Et qu'est-ce que cela te fait, toi, pendant ces années de clinique, d'écouter ces femmes et d'entendre leurs paroles dans leur temporalité bien propre, se libérer? Est-ce que tu veux partager avec nous une image, un sentiment, une promesse de ces années de clinique? C'est important aussi dans la transmission clinique de toi. Qu'est-ce que ça te fait?
Ce que ça me fait, c'est que c'est un métier merveilleux parce que chaque jour, j'en vois les effets. Et j'en vois les effets. Et plus je prends de l'âge dans ce métier-là, et plus je suis heureuse d'en voir les effets à très long terme. Et on peut revoir vivre des femmes bien après leur temps de ménopause. Et ça, ce sont des réussites et des bonheurs de la vie quotidienne pour un psychiatre et pour un psychanalyste qui sont extraordinaires.
Et pour une femme aussi, je crois.